Soi. Alessandro Baricot. Bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Joncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite, à laquelle n'était pas étranger, par une singulière ironie, des traits à ce point aimables qu'il trahissait une vague inflexion féminine. Pour vivre, Hervé Joncourt achetait et vendait des vers à soie. On était en 1861. Flaubert écrivait Salammbô. L'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse, et Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Hervé Joncourt avait 32 ans. Il achetait et il vendait des vers à soie. En réalité, Hervé Joncourt achetait et vendait des vers à soie quand ces vers étaient encore sous la forme d'œufs minuscules d'une couleur jaune ou grise, immobile et, en apparence, mort. Sur la seule paume de la main, il pouvait en tenir des milliers. Ce qui s'appelle avoir une fortune entre les mains. Au premier jour de mai, les œufs s'ouvraient, libérant une larve qui, après 30 jours d'alimentation forcenée à base de feuilles de mûrier, travaillait à se réenfermer dans un cocon pour s'en évader ensuite définitivement 2 semaines plus tard, en laissant derrière elle un patrimoine équivalent en fil à 1000 mètres de soie grège et en argent à une quantité considérable de francs français, à la condition que tout se déroulât dans le respect des règles, et ce qui était le cas pour Hervé Joncourt, dans quelques régions du midi de la France. La Ville-Dieu était le nom de la bourgade où vivait Hervé Joncourt. Hélène, celui de sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Pour éviter les ravages des épidémies qui affectaient de plus en plus souvent les élevages européens, Hervé Joncourt allait acheter les œufs de vers à soie jusque de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie et en Égypte. En cela résidait l'aspect le plus spécifiquement aventureux de son travail. Chaque année, au premier jour de janvier, il partait. Il traversait 1600 milles de mer et 800 kilomètres de terre. Il choisissait les œufs, négociait le prix, achetait. Puis il faisait demi-tour, traversait 800 kilomètres de terre et 1600 milles de mer, et s'en revenait à la Ville-Dieu, en général le premier dimanche d'avril, en général à temps pour la grand-messe. Il travaillait encore 2 semaines à emballer les œufs et à les vendre. Le reste de l'année, il se reposait. « Et elle est comment, l'Afrique ?» lui demandaient les gens. « Fatiguée. » Il avait une grande maison à la sortie du bourg et un petit atelier dans le centre, juste en face de la maison abandonnée de Jean Berbec. Jean Berbec avait décidé un jour de ne plus parler. Il tint promesse. Sa femme et ses 2 filles le quittèrent. Il mourut. De sa maison, personne n'avait voulu, et c'était donc maintenant une maison abandonnée. À acheter et vendre des vers à soie, Hervé Joncourt gagnait chaque année une somme suffisante pour assurer à sa femme et à lui-même ce confort qu'en province on tendrait à nommer luxe. Il jouissait avec discrétion de ses biens, et la perspective vraisemblable de devenir réellement riche le laissait tout à fait indifférent. C'était au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. On aura remarqué que cela contemple leur destin à la façon dont la plupart des autres contemplent une journée de pluie. Si on le lui avait demandé, Hervé Joncourt aurait répondu que sa vie continuerait ainsi toujours. Au début des années 60, cependant, L'épidémie de pébrine qui avait rendu inutilisables les œufs des élevages européens se répandit au-delà des mers, jusqu'en Afrique et même, selon certains, jusqu'en Inde. Hervé Joncourt rentra de son voyage habituel en 1861 avec un approvisionnement en œufs qui se révéla 2 mois plus tard presque totalement infecté. Pour la ville Dieu comme pour tant d'autres villes qui fondaient leur richesse sur la production de la soie, cette année-là parut représenter le début de la fin. La science se montrait incapable de comprendre les causes des épidémies, et la terre entière, jusque dans ses régions les plus reculées, paraissait prisonnière de ce sortilège sans explication.
« Pas toute la terre !» dit doucement Baldabiou. « Pas toute !»
en versant 2 doigts d'eau dans son verre d'anisette.